Bonjour à tous. Voilà, ce matin j'ai deux micros, comme ça vous allez bien m'entendre. Alors on est très heureux et très honorés, Naomi et moi-même, d'être présents parmi nous et d'être venus vous visiter ce matin. Effectivement, on arrive d'Yvetot. On a laissé nos enfants à Yvetot. Ça nous fait drôle, ça ne nous arrive pas si souvent. Hein. On a cinq enfants, donc vous pouvez imaginer que y a de la vie, il y a du mouvement. Et voilà, donc on les a laissés ce matin. Et alors je vous transmets donc toutes les salutations alors de la communauté d'Yvetot, en particulier de Pasteur Gilles que vous connaissez déjà bien. Il est déjà venu plusieurs fois. Et puis effectivement, ça fait 32 ans. Non pas que je travaille avec lui parce que il a fallu qu'il travaille beaucoup pour moi avant que je puisse travailler avec lui. Mais voilà, ça fait en tout cas longtemps qu'on est ensemble donc dans la même église. Voilà, on est heureux d'être avec vous ce matin. J'en profite peut-être pour dire un petit mot d'IFIM, puisque Naomi et moi-même, on a fait IFIM il y a quelques années. C'est principalement Jean-Hugues que vous avez eu la semaine dernière qui fait les cours. Et ce que je remarque, c'est qu'avec IFIM, c'est qu'on est dans des thèmes bibliques, on est dans de l'étude, c'est approfondi. Mais Jean-Hugues, il a un talent particulier, c'est que même dans une étude biblique, même dans un thème qu'on approfondit, eh bien, il y a l'Esprit de Dieu qui agit au travers de lui et qui nous parle et qui nous donne aussi des réponses ou des interpellations qui sont personnelles, même quand on est dans le dur de l'étude de la Bible. Alors ça, je trouve que c'est un talent particulier que Dieu lui a donné. Donc c'est ma manière aussi de vous recommander de pouvoir suivre ses cours IFIM. Alors ce matin, quand je me suis mis devant Dieu, donc enfin pas ce matin, mais quand je me suis mis devant Dieu par rapport à ce message que je voulais vous apporter, voilà, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que je peux leur apporter? De quoi ils peuvent avoir besoin? Et tout de suite, quand j'ai fait cette prière, j'ai vu une image, et dans cette image, il y avait quelqu'un de l'assemblée, et ce quelqu'un, c'est Daniel. Alors, est-ce que tu veux bien t'approcher, Daniel? On a répété ça. Non, je vais demander de pouvoir rester. Alors, peut-être il faut que je m'excuse auprès des ados. On a convenu avec votre pasteur que vous resteriez là ce matin parce que le thème vous intéresse. Je ne sais pas ce qui était prévu, mais voilà, je suis sûr que ça pourra être rapporté après. Alors, Daniel, tiens, on va mettre le micro comme ça. Voilà. Donc, j'ai vu Daniel. Et pourquoi j'ai vu Daniel? C'est parce qu'on a joué au foot. Pendant le barbecue, hein, vous avez vu des photos. Et c'était un moment, voilà, on a pu faire un peu connaissance avec quelques-uns parmi vous. Voilà, je reconnais des visages. Et puis on a fait un peu connaissance avec Daniel, mais on a fait connaissance sur le terrain de foot. Et il y a eu un moment particulier, c'est que on était dans la même équipe. À un moment, il y a eu un corner. Et quand il y a eu ce corner, c'est moi qui ai tiré le corner. Et je sais pas, il y a eu un truc spécial. Daniel, il était devant le but. J'ai tiré le corner et Daniel, il a marqué le but. C'était vraiment un but extraordinaire. Et si ma mémoire est bonne, tu vas me dire, Daniel, si je me trompe, on a gagné avec un but d'avance.
Plus.
Plus. Ah, on a gagné encore plus. Mais en tout cas, cette image m'est venue. Et voilà. Quel âge tu as, toi, Daniel?
11 ans.
11 ans. Moi, j'ai 49 ans. Est-ce que quelqu'un... Ah oui, ton papa, il nous fait les grands signes, c'est pour l'enregistrement. Quel âge tu as, Daniel?
11 ans.
Alors moi, j'ai 49 ans. T'arrives à me dire combien il y a de différence entre nous?
38 ans.
38, bravo. Donc effectivement, il y a 38 ans d'écart entre nous. Et pourtant, on a fait partie de la même équipe et on a marqué des buts. Alors c'est pas moi qui l'ai marqué, moi j'ai fait la passe décisive. Mais Daniel a marqué le but. Je te remercie beaucoup, Daniel. Ah, c'est un buteur et c'est un champion. Et je suis sûr qu'il va marquer des buts pour le Seigneur aussi. Peut-être qu'il en a déjà marqué. Ses parents nous diront tout à l'heure. Ou Daniel nous le dira lui-même. Pourquoi cette image? Parce que ce matin, j'aimerais vous parler des générations. Alors, je vais commencer avec trois passages, trois versets, quatre exactement. Je vais simplement vous les lire pour commencer. Donc, c'est le psaume 90, versets 1 et 2. Prière de Moïse, homme de Dieu, hein, ça pose, prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. J'aime beaucoup cette formule, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais on ne va pas s'attarder sur cette formule-là, on va s'attarder sur la formule juste avant, de génération en génération. Un autre verset, psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et le psaume 33, verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Et il y a un certain nombre de passages dans la Bible, pas seulement dans les psaumes, où il y a cette expression de génération en génération. Alors on pourrait dire, voilà, c'est une expression comme ça, ça veut dire que ça dure longtemps. Mais non, ça a un sens particulier, parce que notre Dieu est le Dieu des générations. Et là, dans ces passages, il est question du fait que de génération en génération, Dieu soit un refuge, que de génération en génération, Dieu soit fidèle. Et il est même question du fait que c'est au travers des générations que les desseins de Dieu, les projets de Dieu s'accomplissent. Il faut qu'on retienne ça. Au travers des générations, les desseins de Dieu s'accomplissent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est au travers de l'enchaînement des générations, c'est au travers de la succession des générations que les plans de Dieu s'accomplissent. C'est important en tant qu'Église qu'on ait présent à l'esprit que Dieu agit au travers des générations, non pas une génération après l'autre, mais une génération avec l'autre, avec celle d'avant, avec celle d'après. C'est cet enchaînement des générations que je voudrais évoquer ce matin avec vous. Ésaïe 41, verset 4, nous dit « Qui a fait et exécuté ces choses ?» Vous pourrez aller voir le contexte à la maison tranquillement. Mais ce qui est dit après, c'est « Celui qui a appelé les générations dès le commencement. » C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Et voyez, la Bible nous dit que les générations ont été appelées dès le commencement. Il y a des personnes de tous âges en face de moi, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes. Alors, les plus jeunes sont partis, mais voilà, il y a des jeunes. Voilà, je sais que Daniel avait 11 ans, il nous l'a dit. Je ne sais pas à partir de quel âge vous êtes représenté ici. Mais voilà, on a plusieurs générations qui sont représentées, trois, peut-être quatre générations, parce qu'il y a un bébé là-bas, un grand bébé. Mais voilà, on est plusieurs générations à être présents. Et vous voyez, parfois, on parle de la génération qui est là, on dit les jeunes aujourd'hui, comme si c'était une génération sacrifiée. Parfois, on dit, oui, c'est une génération perdue. Ou alors, c'est une génération qui est dans la difficulté, une génération qui est oubliée. Mais ça, c'est les gens du monde qui disent ça. Peut-être c'est nous aussi, parfois, en tant que chrétiens, on a l'impression que la génération, elle est sacrifiée, elle est oubliée. Mais ce que dit la Bible, de manière très nette et très claire, c'est que dès le commencement, Dieu a appelé les générations. Quelle que soit ta génération, tu es une génération qui est appelée par Dieu. Tu n'es pas une génération perdue, tu n'es pas une génération sacrifiée, tu n'es pas une génération oubliée, tu es une génération qui est appelée par Dieu. Et ça, c'est précieux. Quel que soit ton âge, tu peux dire oui, je suis appelé par Dieu. Ma génération est appelée par Dieu. Ma génération a un rôle à jouer. Ma génération a quelque chose à faire dans l'accomplissement des desseins de Dieu. On pense parfois, et moi j'ai pensé ça, mais on pense parfois que les promesses de Dieu doivent s'accomplir toutes de notre vivant. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des promesses de Dieu dans leur vie ? Il y en a un petit peu. Voilà, peut-être vous êtes timide, il y en a, vous n'osez pas lever la main, mais on a des promesses que Dieu nous a faites. Et notre tendance, parfois, c'est de croire que toutes les promesses que Dieu nous a faites vont forcément s'accomplir avec nous, de notre vivant, et que c'est nous qui allons le faire. Alors, ce n'est pas forcément faux. Bien sûr que si Dieu nous fait des promesses, il y a des choses qui vont s'accomplir avec nous, qui vont se concrétiser avec nous. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu étrange. Mais il faut qu'on ait cette perspective des générations. C'est-à-dire, vous allez avoir des enfants. Et c'est aussi au travers de vos enfants que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Ça peut être des enfants parce que de sang dans votre famille, peut-être des enfants que vous allez adopter aussi. Ça peut aussi être des enfants spirituels dans l'Église. Voilà, il y a des pères, il y a des mères, il y a des fils, il y a des filles. Là aussi, il y a un enchaînement, une succession des générations. Mais c'est important qu'on réalise que Dieu travaille au travers des générations et que lorsqu'il nous fait des promesses, il nous fait des promesses à nous et à ceux qui vont nous suivre, à ceux qui arrivent après nous. Et vous voyez, parfois, on est un peu malheureux. Moi, j'ai eu cette pensée-là. Je me dis, mais c'est pas possible, ça peut pas se réaliser, les promesses que Dieu m'a faites. Mais quand je commence à élargir le champ, que je pense à mes enfants, que je pense à ceux qui sont autour de moi, là je me dis, mais oui, Dieu est à l'œuvre, il a un chemin, il a annoncé ce qu'il allait faire et il va l'accomplir. Il ne va pas l'accomplir seulement avec moi, il ne va pas seulement l'accomplir avec toi, mais il va aussi l'accomplir avec cet enchaînement des générations. Et vous savez, c'est quelque chose d'important parce qu'on vit dans une société qui est très individualiste. Donc on est poussé à penser par nous-mêmes. Parfois, ça fausse aussi même notre conception de ce que c'est qu'une destinée, une conception chrétienne, un mot important. Mais parfois, on focalise sur notre destinée d'une manière beaucoup trop personnelle. Il faut qu'on élargisse. Oui, Dieu a une destinée pour toi, il a une destinée pour nous. Mais ça s'accomplit aussi avec cet enchaînement des générations. Et voilà, parfois, cette société individualiste qui nous entoure nous pousse à penser trop à nous-mêmes ou à penser trop par rapport à nous-mêmes. Mais il faut aussi qu'on pense par rapport aux autres, par rapport à ceux qui nous ont précédés et par rapport à ceux qui nous suivent également. Et alors, si on élargit eh bien, notre compréhension de la manière dont Dieu agit au travers des générations, eh bien, on se retrouve à agir d'une manière qui est beaucoup plus inspirée, d'une manière qui est beaucoup plus efficace, et pour employer un mot à la mode, d'une manière qui est beaucoup plus durable. Notre action va s'inscrire dans la durée. On voit plus loin et l'impact est plus grand parce qu'on sait qu'il y en a d'autres qui prennent la relève, il y en a d'autres qui nous suivent et qui vont aller plus loin. Ésaïe 46, versets 9 et 10 nous dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens ». Vous voyez, il faut beaucoup penser à ce qui s'est passé avant. C'est quelque chose d'important. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Vous voyez, il y a une chose qu'il faut... Bon, il y en a plusieurs. Mais une chose qu'il faut apprendre de Dieu, c'est que Dieu... Il aime annoncer longtemps à l'avance les choses. Pour nous, c'est un peu compliqué, parce que nous, on est dans une durée qui est plus courte, en tout cas par rapport à notre passage sur Terre. Et parfois, Dieu nous parle. Et quand on est un peu prophétique, on a l'impression que quand Dieu parle, bah, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et parfois, c'est le cas. Mais parfois, Dieu, eh bien, il aime annoncer longtemps à l'avance ce qui va se passer. C'est ce qu'il a fait pour Jésus. Il a annoncé longtemps à l'avance la venue de Jésus. Et alors, voilà, tout le monde se disait, mais c'est quand qu'il arrive? Voilà, on scrutait. Bon, et on scrutait tellement que quand il est arrivé, beaucoup sont passés à côté, mais c'est un autre sujet. Mais voyez, Dieu, il aime ça. Il aime dire longtemps à l'avance ce qu'il va faire. Ça montre à quel point il est puissant. Il est capable de dire quelque chose aujourd'hui, et puis ça va s'accomplir dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 500 ans, et plus. C'est ce qu'on voit aussi dans la Bible. Et c'est important qu'on ait cette compréhension-là, parce que sinon, parfois, on passe à côté de ce que Dieu veut faire avec nous, parce qu'on n'a pas une vue qui va assez loin. Et Dieu, eh bien, il est celui qui aime annoncer longtemps à l'avance ce qu'il va faire. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des choses que Dieu m'a annoncées, c'est pas moi qui les ferai, c'est mes enfants. Peut-être c'est mes arrières, mes petits-enfants. Bon, puis après, j'ose pas aller plus loin, mais... Voilà, il y a cette réalité dans le cœur de Dieu qu'il agit au travers des générations. Dieu a cette perspective d'un accomplissement progressif au travers des générations. Alors peut-être vous connaissez cette expression « nous sommes assis sur les épaules des géants ». Hein, vous avez entendu, c'est une expression qu'on entend souvent. Alors je ne voudrais pas vous manquer de respect, parce que l'expression plus précise c'est « nous sommes des nains assis sur les épaules des géants ». Mais je voudrais qu'on puisse considérer ce matin qu'on est des nains. Je ne sais pas si vous êtes vraiment des nains, mais en tous les cas, je remarque une chose. C'est que si on est assis sur les épaules d'un géant, eh bien, on va plus loin que ce géant. Peu importe quelle est notre taille, à partir du moment où nous sommes assis sur quelqu'un qui est grand, on est sur ses épaules, eh bien, on peut aller plus haut que lui. Vous voyez, alors peut-être vous êtes un géant aussi, voilà, je ne veux pas vous manquer de respect, mais peu importe ce que vous êtes, de toute façon, nous sommes appelés à aller plus haut que ceux qui nous ont précédés. C'est ça l'appel. Et alors, c'est un peu triste parce que j'ai souvent l'impression, j'ai 49 ans, vous l'avez entendu tout à l'heure, mais j'ai souvent l'impression, parfois l'impression que chaque génération doit inventer l'eau tiède, que chaque génération doit inventer le fil à couper le beurre. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faudrait comme ça... toujours redécouvrir ce qui a déjà été découvert. Et à une période de ma vie, j'ai fait des études, notamment de philosophie, et je me suis rendu compte qu'il y avait des questions que je me posais ou des questions qu'on se pose dans l'Église aujourd'hui, mais pourtant il y a des siècles qu'elles ont déjà été résolues, mais je ne le savais pas. Et vous voyez, c'est terrible parce qu'on perd un héritage, parce qu'on néglige ce qui s'est passé avant. Alors bien sûr, chaque génération doit faire ses expériences, c'est ce qu'on dit et c'est vrai. Et chaque génération va devoir adapter le message pour sa génération. Mais c'est quand même malheureux que bien souvent, chaque génération doit refaire encore les mêmes erreurs que les générations qui les ont précédées. On devrait pouvoir tirer les leçons et le bénéfice de ce qui s'est passé avant. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et on devrait aussi, d'ailleurs je vous disais, on se pose des questions. Moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, alors je cherche des réponses. Mais c'est terrible parce que parfois, eh bien, nos aînés se sont posés les mêmes questions que nous. Peut-être ils ont cherché des réponses pendant des années, et là ils ont des réponses à nous apporter. Mais nous on cherche, au lieu de les interroger. Vous voyez, il y a cette... De quoi on parle ce matin ? On parle de la transmission. Comment est-ce qu'on transmet ? Mais quand on parle de la transmission, eh bien, on doit parler aussi de comment on reçoit. Ce n'est pas seulement la transmission, mais c'est aussi la réception. Et cette question de la transmission, elle est tellement importante. Parce que si je réalise que, vous voyez, on peut le dire comme ça, voilà, moi je travaille avec mon pasteur Gilles depuis longtemps, un jour il ne sera peut-être plus là, mais voilà, je pourrais dire, mais voilà, moi je suis un nain qui suis assis sur les épaules d'un géant. Ok, mais... Aussi haut qu'ait pu aller ce géant, si je suis sur ses épaules, je dois pouvoir aller plus loin. Je dois pouvoir tirer le bénéfice de tout ce qu'il a pu vivre, de tout ce qu'il a pu apprendre. Bien sûr, je vais devoir faire mes preuves aussi par moi-même et apprendre aussi par moi-même. Je ne pourrai pas tout apprendre de lui, mais j'ai beaucoup à apprendre de lui et j'ai beaucoup appris de lui également. Et voyez, c'est ça qui est important, c'est que la transmission puisse s'opérer pour qu'on puisse aller plus loin. Transmission, réception, il faut qu'on soit sur la bonne fréquence. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que bien souvent, eh bien, on est mal réglé. C'est comme si le poste de radio était un petit peu à côté de la fréquence. Du coup, on n'entend pas bien, mais il faut qu'on puisse harmoniser nos fréquences. Et qu'est-ce qui harmonise nos fréquences ? Eh bien, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Si on se laisse conduire par le Saint-Esprit ensemble, quel que soit notre âge, eh bien, il y a cette même fréquence qui est là. Alors, on peut partager, on peut transmettre, on peut recevoir, on peut interroger, on peut encourager. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est tellement important qu'on soit attentif à ce que nous soyons sur la même fréquence. Le psaume 71, versets 17 et 18 nous dit, c'est un psaume de David, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Vous voyez, Dieu instruit le psalmiste dès sa jeunesse. Et ensuite, il dit, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Voyez, c'est la transmission. Quelqu'un qui a déjà un certain âge, là il est même question de blanche vieillesse, eh bien, il annonce à la génération d'après la force de Dieu. Et puis, à la génération encore d'après, la puissance de Dieu. Et voyez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trois générations dans ce passage qui sont rassemblées. Et chacun a son rôle à jouer. Il y a quelque chose à transmettre et quelque chose à recevoir. Encore plus fort, Joël 1, verset 3. « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Vous voyez, là, il y a quatre générations qui sont représentées. Et cette notion de la transmission de génération en génération, elle est présente partout dans la Bible. Et lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque Dieu parle, lorsqu'il donne un héritage, eh bien, pour que ça perdure, il faut que ça s'inscrive dans les générations. Il faut que ce soit transmis, mais il faut que ce soit reçu. Alors, il y a tant de choses à transmettre, à raconter, à annoncer aux générations qui montent. Et c'est une des responsabilités majeures de chaque génération, la transmission. Il est vrai que pour une part, les plus jeunes vont devoir faire leurs propres expériences. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais souvent, on dit, voilà, il faut qu'il fasse ses expériences. Oui, c'est vrai, il faut qu'il fasse ses expériences. Mais on peut l'accompagner, on peut l'aider, on peut lui parler, on peut le conseiller. On peut peut-être, lorsqu'il a fait cette erreur, on peut le recueillir aussi. Et puis faire le point, faire le bilan. Parce que c'est comme ça que se fait la transmission. Elle ne se fait pas ni sans heurts, ni sans erreurs. Mais elle doit se faire. Et parfois, oui, c'est le fils prodigue ou c'est la fille prodigue qui revient à la maison et on l'accueille. Et là, le cœur est ouvert pour la transmission. Dans Juges 2, verset 10, il nous est dit, « Toute cette génération, donc on est dans le contexte après Josué, Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Vous voyez, je trouve que ce passage est terrible, parce qu'il nous montre, en tout cas négativement, mais c'est vrai aussi positivement, mais là il nous montre que négativement, eh bien, en une génération, tout peut être changé, tout peut être perdu. Et aussi puissamment Dieu s'est manifesté dans le désert, dans la conquête du pays promis, au travers de la vie de Josué, c'était puissant ce que Dieu a fait. Et pourtant, la génération qui suit nous a dit, mais voilà, ils ne connaissaient pas l'Éternel, et même ils ne savaient pas, ni ce qu'il, ils ne connaissaient point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ça laisse entendre qu'on ne leur avait même pas expliqué, ou en tout cas pas expliqué correctement, tous les épisodes, tous les miracles que Dieu avait accomplis et tout ce qui s'était passé. Comment est-il possible qu'une génération vive quelque chose d'aussi puissant avec Dieu et que la génération d'après, eh bien, se détourne de l'Éternel? Parce qu'il est même dit, au verset qui suit, le passage que je viens de vous lire, il est même dit qu'ils se sont tournés vers les idoles, vers les Baals. Ça s'est fait en une génération. C'est juste incroyable. Maintenant, on peut aussi renverser les choses et se dire, mais positivement, c'est vraiment possible que la donne soit changée positivement en une génération, que ce qui est bon dans une génération puisse être transmis et que la génération qui suit, eh bien, elle va encore plus loin. En une génération, quelque chose peut se passer, à condition que cette génération, eh bien, transmette à la génération qui suit pour que ce ne soit pas à nouveau perdu. Et vous savez, il y a tellement de grands hommes de Dieu qui ont eu un impact considérable, mais qui, par contre, en termes de transmission, eh bien, ils n'ont pas su transmettre. Et ce qui s'est passé après eux, eh bien souvent, ça a été des catastrophes, de l'incompréhension. Alors, tout n'a pas été perdu de ce qu'ils ont fait. Mais malgré tout, une grande partie s'est perdue ou a été oubliée parce que la transmission ne s'est pas opérée. Deutéronome 32, verset 7, nous dit « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. » Et j'aimerais m'adresser plus aux jeunes. Je me mets avec vous, mais ça ne marche pas parce que j'ai quand même 49 ans. Mais j'aimerais vous dire que c'est important que vous puissiez interroger vos parents, que vous puissiez interroger les aînés, que vous puissiez leur poser des questions. Parce que bien souvent, les aînés essaient de transmettre, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas toujours de l'envie, il n'y a pas toujours de l'écoute. Parce qu'on se dit, mais oui, mais on nous a déjà raconté ça. Et finalement, on passe à côté de ce qui est tellement important que la génération d'avant pourrait nous transmettre. Et vous voyez, dans la Bible, il y a cet équilibre, c'est-à-dire que les aînés ont cette charge de transmettre. Mais j'ai envie de dire que quel que soit ton âge, tu as cette charge de transmettre, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient après toi. Et ce n'est pas toujours seulement une question d'âge, parce que même si tu as 15 ans, par exemple, aujourd'hui, et que tu connais le Seigneur déjà depuis plusieurs années, eh bien, quelque part, tu vas pouvoir transmettre à quelqu'un, peut-être qui a 60 ans, mais qui découvre le Seigneur aujourd'hui. Donc, ce n'est pas toujours une question d'âge. Mais vous voyez, c'est tellement important parce que c'est compliqué parfois de transmettre quand il n'y a pas de questions. Parce que quand il n'y a pas de questions, ce que ça signifie, c'est que peut-être il n'y a pas d'intérêt ou il n'y a pas d'envie de vouloir apprendre. C'est pour ça qu'il y a cet équilibre dans la Bible. L'accent qui est mis sur la transmission, mais aussi la demande que Dieu fait de dire, mais voilà, tu interroges, tu demandes, tu poses des questions, parce qu'il y a des choses qui doivent être transmises. Et c'est vraiment une technique aussi pédagogique, c'est-à-dire que moi j'ai remarqué, quand il n'y a pas de questions, ce n'est pas trop la peine d'expliquer tout un tas de choses. Parce que souvent, c'est perdu. Par contre, s'il y a une question, là, ça commence à avoir du sens. Parce que s'il y a une question, ça veut dire qu'il y a une interrogation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pouvoir entrer, qui va pouvoir pénétrer. Et c'est tellement important que nous puissions nous interroger aussi les uns les autres pour que chacun puisse transmettre aussi ce qu'il a reçu. Alors, je mets un focus là-dessus, sur cette importance de poser des questions et d'interroger. Et ce n'est pas moi qui mets ce focus, vous comprenez, c'est la Bible qui met ce focus. Et dans le même ordre d'idées, je crois que c'est aussi extrêmement important d'étudier l'histoire, de connaître l'histoire de notre pays, l'histoire du monde, l'histoire du peuple d'Israël, tout ce qui s'est passé aussi, les passages en Égypte, etc. C'est pas juste des histoires qu'on lit dans la Bible, voilà, on se dit oui, c'est vrai, mais il faut étudier qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, ils ont posé tel acte, qu'est-ce que ça a été les conséquences? Ils ont transmis, ça a été positif, il y a eu un bon roi, ça a été positif, il y a eu un mauvais roi, qu'est-ce qu'il a fait? Ensuite, comment les autres ont repris le flambeau? Il faut étudier toute cette histoire, parce que ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, même si c'est, ça s'est parfois passé il y a des centaines, il y a des milliers d'années, eh bien, ça se repasse de la même manière aujourd'hui, même si le contexte est différent. Les êtres humains n'ont pas tant changé que ça. Et finalement, eh bien, les histoires de la Bible, elles nous parlent aujourd'hui d'une manière vraiment tellement forte. C'est comme si c'était quelque chose qui se passait aujourd'hui. C'est ça qui est juste extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est vivante, qu'elle traverse les siècles, qu'elle traverse les millénaires pour s'adresser à nous et pour nous parler à nous pour aujourd'hui. Alors oui, c'est important d'étudier l'histoire, d'étudier aussi l'histoire de l'Église. Je dis ça pour les plus jeunes, notamment, mais il y a tellement de débats qu'il y a eu dans les premiers siècles de l'Église. Mais quand on lit ça, on se dit, mais ah ouais, mais on a oublié ça. Vous savez, par exemple, il y avait une question qui se posait tout le temps, c'est est-ce que Jésus, c'est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est pleinement homme? Est-ce qu'il est pleinement Dieu? Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, vous demanderez à Jean-Hugues si vous faites IFIM. Mais il y a eu tellement de débats et tellement d'écrits, tellement de réponses éclairantes et juste extraordinaires qui nous aident aujourd'hui à comprendre les Écritures et à comprendre que oui, Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on se dit, bon, est-ce que c'est si important, cette question? Mais oui, c'est extrêmement important parce que ça conditionne notre foi d'une manière magistrale. Alors bien sûr, ça peut être des éléments qui nous dépassent aujourd'hui. Mais moi, je peux que vous encourager, les jeunes et les moins jeunes, à étudier ces choses parce que ça assoit votre foi d'une manière tout à fait fondamental, et en plus, ça vous donne des réponses ou des éléments de réponse à tellement de questions qui se posent aujourd'hui, et vous pouvez repérer des choses qui manifestement ne sont pas justes, parce que simplement vous connaissez l'histoire, allez, on va dire des 2-3 premiers siècles de l'Église, parce que quelque part tout était déjà là. Tous les débats qui traversent l'Église pendant les siècles, eh bien c'est les mêmes que ceux qui se sont posés dans les premiers siècles. Bien sûr, avec un contexte différent, avec des mots différents, mais les idées sont là, c'est toujours les mêmes. Alors je veux vous encourager aussi à étudier cela, parce que si vous voulez être des personnes qui vont de l'avant, qui marquent leur génération, qui sont efficaces dans la transmission, eh bien l'histoire aussi c'est quelque chose d'important. Quelqu'un a dit, ils sont plusieurs à l'avoir dit de manière différente, mais quelqu'un a dit que celui qui ne connaît pas l'histoire, il est condamné à la répéter. C'est-à-dire condamné à répéter les mêmes erreurs qui se sont produites dans l'histoire. Il les répète encore et encore. Et malheureusement, eh bien c'est vrai aussi dans l'Église, nous répétons encore et encore les mêmes erreurs parce que nous ignorons ou nous avons une connaissance très superficielle de ce qui s'est passé dans le passé. Une question, par exemple, qui est tout à fait essentielle, c'est comment est-ce qu'on articule la grâce et la loi ? Eh bien, vous pouvez lire des choses extraordinaires sur ce sujet, simplement en étudiant l'histoire de l'Église, et ça vous clarifie les idées, et ça empêche qu'on tombe dans des approches qui finalement ne correspondent pas à la Bible, même si parfois on s'appuie sur l'un ou l'autre des versets bibliques, mais on a besoin de connaître aussi cette histoire, ce qui s'est déroulé pendant les siècles. Et alors, je remarque une chose, mais je ne le remarque pas chez vous, parce que c'est la première fois que je viens, ça a été dit, mon Naomi est déjà venue 2 fois, elle m'a même dit qu'elle était venue quand elle était petite pour un spectacle. Enfin, je ne sais pas ce que c'était ce spectacle, mais... Je remarque une chose, c'est que de manière générale, dans le monde chrétien, on s'attend à des récoltes. Et c'est juste. En plus, on a les promesses de Dieu qui nous dit qu'il va agir, qu'il va y avoir un réveil, des choses comme ça. Donc on s'attend à des récoltes. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait que pour qu'il y ait des récoltes, il faut qu'il y ait des semences. Et si nous ne semons pas, eh bien, ça devient bizarre de s'attendre à une récolte. C'est-à-dire que, imaginez que vous soyez un paysan, voilà, vous avez des champs, certaines années vous avez semé du maïs, du blé, vous avez une récolte, mais imaginez que vous négligiez de semer dans vos champs, et puis, ben voilà, mais vous dites, ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas de récolte? Vous voyez, ça peut être un problème aussi. Et tout ce dont on est en train de parler, la question de la transmission, ce qu'on dit aux autres, les actions qu'on pose, les actes qu'on pose, peut-être les exploits qu'on accomplit, ou simplement la manière dont on communique avec les autres, eh bien, c'est autant de semences. Et lorsqu'on transmet, eh bien, ça devient tout à fait légitime de pouvoir s'attendre à une récolte. Et puis avec Dieu, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que, eh bien, c'est la loi de la multiplication. C'est-à-dire, quelques semences peuvent apporter une grande récolte. Mais pas de semences, pas de récolte. Voyez ? Et c'est important qu'on prenne ce temps pour semer, pour transmettre. Et tout à l'heure, votre pasteur parlait de la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la gloire de Dieu doit se manifester dans chaque génération. Et je vous lis pour appuyer cette idée, Éphésiens 3, versets 20 et 21. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » On le cite souvent, ce verset. Voilà. Dieu peut faire plus que ce qu'on peut imaginer, que ce qu'on peut penser. Mais ensuite, il est dit « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Et voyez que la manifestation de la gloire de Dieu, le fait que Dieu puisse faire plus que ce qu'on pense, plus que ce qu'on demande, plus que ce qu'on imagine, eh bien c'est lié aussi à cette question de la transmission et à la manière dont chaque génération va se saisir de l'héritage qui lui est communiqué et ce qu'elle va faire aussi pour projeter cet héritage plus loin. Et voilà, c'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste. Quelque part, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une forme d'amplification au fur et à mesure que les générations avancent, une amplification de la manifestation de la gloire de Dieu. D'une certaine manière, c'est le cas, mais c'est loin d'être net partout. Mais si on se saisit de ce qui s'est passé avant, et si on l'intègre à notre génération, et si on le projette pour que ceux qui nous suivent aillent plus loin, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Parce que l'héritage, eh bien, s'amplifie, il se démultiplie, il est communiqué toujours davantage. La transmission est au cœur de la manifestation de la gloire de Dieu. Et vous voyez, ce passage nous dit aussi que ça se passe comment, cette manifestation de la gloire de Dieu. Ça se passe comment, le fait que Dieu fait au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine. Eh bien, ce texte nous dit, c'est par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas notre puissance, mais c'est la puissance de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous pousser à parler, qui va nous pousser à agir. Et ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, eh bien, ça va aller encore plus loin que ce qu'on a pu penser ou imaginer, et ça va produire un fruit qui manifeste la gloire de Dieu. Mais vous voyez, parfois, on sent bien qu'il y a cette puissance de Dieu en nous, on sent bien que Dieu nous pousse à parler, que Dieu nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre. Mais nous ne le faisons pas, ou nous passons à côté, ou nous n'osons pas pour toutes sortes de raisons. Peut-être tu n'oses pas communiquer à ton frère, à ta sœur, à ton fils, à ta fille, ce que tu as vécu. Et du coup, il y a quelque chose qui pourrait se passer, mais qui ne va pas se passer. Quelque chose que Dieu pourrait prendre, comme les pains et les poissons qui ont été donnés, qui ont été multipliés. Quelque chose que Dieu pourrait prendre de ta vie pour le multiplier. Mais finalement, eh bien, ça ne se fait pas parce qu'on n'ose pas. Mais Dieu, eh bien, il veut agir par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas notre puissance, mais c'est comme ça que Dieu va faire. C'est lorsqu'on passe à l'action. C'est lorsqu'on met en pratique ce que Dieu nous demande. Alors, en matière de transmission, il y a un texte par excellence que je voudrais vous lire ce matin, c'est Deutéronome 6, j'ai vu tout à l'heure à la photocopieuse, il y a un extrait de Deutéronome 6 qui est affiché, mais je voudrais vous lire donc Deutéronome 6, les 9 premiers versets. « Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Voyez, ce texte nous parle de transmission de la loi de l'Éternel, de transmission de ce qui est vécu avec Dieu. Et là, je voudrais simplement souligner quelques éléments de ce texte. C'est un texte qui nous parle à la fois de connaître, d'enseigner, mais aussi de mettre en pratique. Vous voyez, on n'est pas juste dans l'enseignement, mais on est aussi dans la mise en pratique. Et la vérité, dans une compréhension biblique de ce qu'est la vérité, eh bien la vérité, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on connaît, mais c'est aussi quelque chose qu'on pratique. Moi, il y a plein de choses que je connais, mais que je ne pratique pas. Eh bien, je peux en parler comme ça, mais c'est des connaissances. Mais si je parle de quelque chose que je connais, j'ai des connaissances, et en plus j'ai pratiqué, j'ai aussi une expérience, eh bien là, ma parole, elle a beaucoup plus de poids, elle a beaucoup plus d'intérêt, parce qu'on pourrait le dire comme ça, c'est à la fois la théorie et la pratique. Et parfois, eh bien, il arrive que sur un certain nombre de sujets, en tant que chrétien, on en reste à la théorie, on ne fait rien avec la parole qu'on entend. Eh bien, ce texte nous parle justement à la fois d'enseigner, d'être enseigné, d'enseigner et de pratiquer. Et ça doit aller ensemble. Et dans la transmission, dans les familles, c'est comme ça que ça doit se passer aussi. Il est question aussi de toi, de ton fils et du fils de ton fils. Et ça, j'aime bien ce texte, parce qu'il parle à la fois des parents, mais il parle aussi des grands-parents. Ce n'est pas que les parents qui ont un rôle à jouer, mais c'est les grands-parents. Les grands-parents ont une charge aussi de transmettre à leurs petits-enfants. Et vous voyez, ça c'est important, parce que c'est comme ça qu'il y a une succession dans les générations. C'est comme ça que l'héritage s'inscrit avec force. C'est parce que c'est pas juste papa qui le dit, c'est pas juste maman qui le dit, mais c'est aussi les grands-parents. Et puis, vous imaginez, moi j'ai 49 ans, et bien quelque part, je représente deux générations qui m'ont précédé. Bon, j'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps, ma maman est encore vivante, mais mes grands-parents sont décédés. Mais je les ai connus. Et bien, lorsque je parle, et bien quelque part, je représente aussi au moins les deux générations qui m'ont précédé. Vous voyez, il y a un poids qui est important. Et moi, j'ai réalisé ça davantage lorsque mon papa est décédé, d'une certaine manière. C'est comme si le Seigneur me disait, mais voilà, maintenant, c'est ta génération. C'est à toi. Alors voilà, il y a des moments comme ça de prise de conscience différente dans la vie ou plus forte. Mais voilà, réalisons qu'en fonction de l'âge qu'on a, eh bien, on représente un poids aussi des générations qui nous ont précédés. Et c'est comme ça que se fait la transmission. Mais si, imaginez que moi-même, je néglige le fait qu'il y a eu des générations avant moi. Eh bien, je vais parler de mon niveau, du niveau de ma seule génération. Mais quelle perte ! Ce serait regrettable. Il faut pouvoir transmettre aussi ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que la Bible aussi nous relate tout ce qui s'est passé avant. Et il y a des détails. Et quelque part, il est question de chaque génération, comment s'est comportée chaque génération. Parce que ça a du sens et parce que ça nous éclaire pour aujourd'hui. Ce texte nous parle aussi, et je vais aller rapidement, mais c'est un texte qui nous parle de bonheur et de multiplication. Les sujets dont on parle là, ce matin, eh bien, ils sont connectés au bonheur et à la multiplication. Ils sont connectés au fait d'entrer dans un nouveau pays, de le posséder et d'y vivre. Et oui, cette question du bonheur, elle est primordiale pour Dieu. Et parfois, on se dit, voilà, est-ce qu'être chrétien, est-ce qu'on peut être heureux quand on est chrétien ? Il y a des grosses questions là-dessus. Mais la Bible nous parle partout d'être heureux. Il nous parle partout du bonheur. Alors, bien sûr, c'est un bonheur qui se concrétise d'une manière souvent différente de ce qu'on imagine. Mais Dieu se soucie de nous et il se soucie du fait que nous soyons heureux. Et ce texte le rappelle aussi. Il est question aussi que tout cet héritage, toute cette transmission, ce soit avant tout des choses qui sont dans notre cœur. Et voyez, on est dans une question de cœur. J'ai bien aimé, je vais écorcher le prénom de la pianiste qui nous a parlé du cœur, nous a parlé de la volonté, des émotions, de la pensée. Eh bien, oui, c'est ça notre cœur, c'est tout ça. Et c'est pas juste quelque chose qu'on pense, ou c'est pas juste quelque chose qu'on veut, ou c'est pas juste quelque chose qu'on ressent. C'est un ensemble. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, mais mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, parce qu'il veut tout de nous. Et lorsque on lui donne tout et qu'on vit cette réalité que la parole de Dieu, l'héritage que Dieu nous donne, eh bien c'est dans notre cœur, eh bien on peut le communiquer avec un impact qui est différent, et différent dans le sens de plus fort. Ce texte nous parle donc de transmission, et il nous parle de transmission dans la vie quotidienne. Et mon épouse, elle est particulièrement forte pour faire ça, transmettre concrètement des choses dans le quotidien. Et là, il nous est dit qu'il est question de transmettre à la maison, de transmettre pendant qu'on est en voyage, pendant les vacances, les sorties, il est question du lever, il est question du coucher, il est question aussi d'afficher. À la maison, mon épouse a affiché aussi un certain nombre de versets bibliques. C'est un moyen de transmettre. Vous voyez, c'est des choses qui sont très concrètes et qui sont très quotidiennes. Alors, vous voyez, moi, je suis quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, je suis souvent perdu dans mes pensées, je me pose des questions, tout ça. Mais plusieurs fois, Dieu m'interpelle pour que je sois quelqu'un qui transmet davantage. Alors, j'essaie de progresser, c'est un effort pour moi, mais je progresse. Et je vous transmets aussi cela, c'est-à-dire, vous aussi, nous aussi, ensemble, on a besoin de progresser pour que notre regard change sur la génération future, qu'on mette des semences qu'il ait un impact, qu'il change la donne pour la suite, que la donne soit changée. Et encore une fois, on l'a dit, positivement comme négativement, les choses peuvent changer en une génération. Et ensuite, il faut les consolider. Et puis, une chose que j'aime bien, et là encore, c'est un élément sans doute pour beaucoup d'entre nous de progression, c'est que puisque c'est concret, puisqu'on est dans le quotidien, eh bien, on ne doit pas tout le temps se cacher pour prier ou pour lire la Bible ou pour pratiquer notre foi. Et ça, parfois, c'est une difficulté. Vous savez, on est un peu pudique. Voilà, je vais prier. Alors, bien sûr, la Bible, elle nous dit, quand tu pries, ferme ta porte, mets-toi dans le lieu secret. Donc ça, c'est secret, effectivement. On n'est pas là pour faire ça devant le public. Et puis, Dieu, Jésus, il a tensé assez sévèrement ceux qui faisaient des grandes prières comme ça en public. Donc, je ne parle pas de ça. Mais je parle du fait que c'est important aussi que nos enfants nous voient prier, que c'est important que nos enfants nous voient lire la Bible, que c'est important parfois que nos enfants se rendent compte que la famille est confrontée à certaines difficultés et qu'on fait certains choix. Et comment on les fait? Et comment ça se passe à la maison? Peut-être comment les parents discutent? Enfin, vous voyez, il ne faut pas que ce soit caché, parce que ça aussi, c'est des éléments de transmission. Parce que sinon, parfois, nos enfants se disent oui, mes parents sont chrétiens, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? Ça a l'air un peu mystérieux. Enfin, vous voyez, et c'est bien qu'il y ait une part de mystère, mais il faut que ça soit qu'une part. Que ce soit qu'une part, mais la transmission, c'est aussi ce qui se passe dans le concret, dans le quotidien. Je voudrais lire avec vous encore un verset qui nous parle de l'éducation des enfants, et c'est un verset qui m'a beaucoup interpellé quelques années auparavant. C'est dans Proverbe 22, verset 6. Il nous est dit « Instruit ou éduque, en fonction des versions, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et un jour, j'ai lu ce verset, et il y a une question qui m'est venue, et je vous la partage. Je me suis dit, mais c'est quoi la voie que l'enfant doit suivre? C'est quoi? C'est quoi la voie que l'enfant doit suivre? Est-ce que c'est la voie que tu penses être bonne pour lui? Est-ce que c'est la même voie que la tienne? Ou est-ce que peut-être c'est la voie où ton enfant va pouvoir accomplir ce que toi, tu n'as pas encore réussi à accomplir? Est-ce que ça peut être ça? Peut-être que ça peut être ça. Mais plus précisément, eh bien, c'est quoi la voie que notre enfant doit suivre et cette voie en fonction de laquelle on doit l'éduquer? Eh bien, cette voie, c'est la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ça, la voie que l'enfant doit suivre, et c'est pour ça qu'on doit l'éduquer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est assez banal ce que je suis en train de vous dire là, mais je vous disais, on a 5 enfants, ils sont tous différents, et ils n'ont pas tous la même voie. Ils n'ont pas tous le même appel, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ils n'ont pas tous les mêmes dons. Ça veut dire qu'on ne peut pas tous les élever exactement de la même manière. Il faut qu'on puisse tenir compte de qui ils sont. Et ça, c'est quelque chose qui nous engage. Ça veut dire qu'en tant que parents, on a besoin de passer du temps devant Dieu pour comprendre qui est notre enfant, pour comprendre quel est son appel. Peut-être on ne va pas tout comprendre, mais Dieu va quand même nous montrer une partie, parce qu'il sait qu'on a cette charge en tant que parent d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et bien sûr, il y a un cadre qui ne change pas, un cadre éducatif qui reste le même. Mais dans ce cadre, eh bien, on ne peut pas se comporter avec tous nos enfants exactement de la même manière. Moi, je remarque qu'il y a des enfants qui sont sensibles. Si on les gronde fort, ça produit quelque chose de terrible. Mais il y a des enfants, c'est l'inverse. On a beau les gronder, même un peu fort, on a l'impression que ça glisse. Vous voyez, on ne peut pas se comporter de la même manière, parce que ce n'est pas les mêmes. Et vous voyez, parfois, il faut qu'on s'interroge pour se dire, mais est-ce que la manière dont on met en pratique l'éducation qu'on veut apporter à nos enfants, est-ce que ça favorise le fait est-ce qu'ils sont éduqués dans la voie qu'ils doivent suivre? Est-ce qu'on leur donne des appuis pour ça? Ou alors, est-ce qu'on met des obstacles? Et voilà, c'est une question importante, parce que moi, je remarque qu'en tant que parent, oui, on peut mettre des obstacles dans la vie de nos enfants, mais on peut aussi leur communiquer des points d'appui qui vont être précieux. Voilà, il n'y a pas de parents parfaits, donc on fait tous un peu les deux, et voilà, il y a des plus ou moins bons parents, on le sait bien, et voilà, il y a parfois des histoires de famille qui sont difficiles. Mais on doit s'interroger et se dire, mais la voie que doit suivre mon enfant, Seigneur, révèle-moi la voie que doit suivre mon enfant pour que je puisse l'éduquer conformément à cette voie. Et j'attire votre attention là-dessus parce que en matière de transmission, c'est important, parce que peut-être tout n'est pas à transmettre. Peut-être qu'il y a certaines choses, il faut les transmettre d'une manière ou d'une autre manière, à un moment ou à un autre moment. On a besoin de la sagesse et la grâce de Dieu pour faire ça. Et puis, je le disais, ça nous engage, parce que ça veut dire que, quelque part, ça nous oblige à prendre du temps aussi dans la présence de Dieu, pour relever nos enfants devant Dieu, pour que Dieu puisse nous parler au sujet de nos enfants, pour que parfois on puisse saisir certaines difficultés qui vivent. Voilà, parce que Dieu veut nous montrer ces choses-là. Et ça nous engage. Ça nous engage, mais c'est quelque chose qui est bon et c'est comme ça aussi qu'on transmet et qu'on éduque. Je me rends compte que je suis trop bavard. Alors je vais passer un certain nombre de choses, mais je voudrais terminer en vous parlant quand même des derniers versets de l'Ancien Testament et presque des premiers versets du Nouveau Testament. Et je vous lis les derniers versets de l'Ancien Testament, c'est Malachie 3, versets 23 et 24. Et ça dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Vous voyez, ça, c'est les deux derniers versets de l'Ancien Testament. Et ces deux derniers versets de l'Ancien Testament, eh bien, nous parlent du cœur des pères qui reviennent aux enfants et du cœur des enfants qui reviennent aux pères. Alors peut-être on peut élargir, peut-être qu'on peut aussi parler des parents, je pense que c'est pas insensé, mais voilà, je pense qu'il est plus question des pères, mais on peut se laisser aussi interpeller en tant que mère. Ce dernier passage de l'Ancien Testament nous parle de cela. Et vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il nous est même dit que si effectivement le cœur des pères revienne vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, eh bien, le pays ne sera pas détruit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est la fin de l'Ancien Testament. Mais les premiers mots, quasiment les premiers mots du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, je sais, vous allez me dire, les premiers mots, c'est dans Matthieu. Mais dans Luc, il remonte plus en avant dans la chronologie pour nous parler de Jean-Baptiste, parce que ce passage de Malachie, et celui que je vais vous lire là, nous parle de Jean-Baptiste qui précède la venue de Jésus. Donc dans Luc 1, versets 16 et 17, pourquoi je vous dis que c'est les premiers mots du Nouveau Testament? Vous allez me dire, mais il y a 15 versets avant. Oui, vous avez raison, il y a 15 versets avant, mais ce passage-là, c'est lorsque l'ange parle de la part de Dieu à Zacharie. C'est-à-dire, concrètement, Malachie, c'est le prophète qui s'exprime, et puis là, ce que je vais vous lire, c'est la première fois, si on peut dire ça comme ça, par rapport au début de l'Évangile, que Dieu va parler au travers d'un ange. Et qu'est-ce qu'il dit en parlant de Jean-Baptiste? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple qui soit bien disposé. C'est la même idée. On reprend le même programme, le fait que le cœur des pères revienne vers les enfants et que le cœur des enfants revienne vers les pères. Et c'est à cette condition que la transmission est possible. Alors, je voudrais qu'on puisse se laisser interpeller par ça, et on va prendre un temps devant le Seigneur. Je vais demander à mon épouse si elle veut bien venir jouer du clavier. Et je voudrais, là on peut peut-être incliner nos têtes. Et voilà, je ne sais pas ce qui vous a interpellé dans ce que j'ai pu partager avec vous ce matin, mais j'aimerais qu'on se laisse interpeller par le cœur de Dieu. Parce que Dieu est un Père. Et peut-être ce matin, en entendant tout ça, tu te dis, mais d'une certaine manière, eh bien, j'ai besoin de revenir à Dieu. J'ai besoin de connaître Dieu comme un Père bien davantage. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai découvert Dieu comme un Père par étapes. Et je crois que j'ai encore des étapes à vivre pour le découvrir encore comme un Père. Mais voilà, peut-être ce matin, tu te dis, mais oui, je dois m'approcher de Dieu. J'ai besoin de découvrir Dieu comme un Père à nouveau. Peut-être c'est ça, ou peut-être en tant que parent, en tant que père ou en tant que mère, eh bien tu te dis, mais oui, j'ai besoin que mon cœur revienne vers mes enfants. Ou alors peut-être en tant que jeune, en tant qu'enfant, et je crois qu'on peut être aussi âgé et puis penser à ses parents, on peut se dire, mais oui, j'ai besoin que mon cœur quelque part revienne vers mes parents. Et je vous dirais même que je crois que c'est possible que nos parents soient partis, qu'ils soient décédés, et qu'on ressente cette nécessité que quelque part notre cœur se tourne à nouveau vers nos parents, c'est-à-dire qu'il y a une œuvre de réconciliation qui puisse se faire. Et voilà, simplement, je vous lance ces éléments-là, et si vous vous sentez interpellé, je veux juste vous proposer de vous lever à votre place, et puis on va prendre un temps simplement pour prier ensemble, et au-delà du fait de prier ensemble, eh bien tu peux aussi eh bien, parler à Dieu et lui dire, voilà, peut-être tu as besoin de revenir vers tes parents, peut-être tu as besoin de revenir vers tes enfants, peut-être tu as besoin de ce secours-là, de cette aide-là. Bah, si c'est le cas, voilà, je t'invite vraiment à te lever à ta place et puis à commencer déjà à ouvrir ton cœur au Seigneur. Et je reviens sur ce que je disais, je pense qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est déjà âgé, sans doute qui a déjà perdu ses parents, mais pourtant, eh bien, Dieu veut toucher ton cœur et veut faire une œuvre de réconciliation. La Bible, elle nous parle du ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné. Et je crois que ce ministère, eh bien, peut être exercé ce matin, que Dieu veut que ce ministère soit exercé pour qu'il y ait une réconciliation. Peut-être en te levant, eh bien, c'est une manière de dire, mais oui, je vais aller parler à mes enfants, ou je vais aller parler à mes parents. Et bien sûr, ce que je vous dis, ce n'est pas seulement une histoire de famille, c'est aussi une histoire de famille avant tout, mais c'est aussi dans l'Église. Parfois, on a besoin de retourner vers les aînés, de retourner vers les parents, ou parfois, on a besoin de retourner vers les enfants pour dire, voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais on veut fonctionner ensemble, on veut être ensemble. Je veux pouvoir te transmettre à nouveau de manière libre. Je veux que tu puisses recevoir aussi sans qu'on soit sur des fréquences qui soient différentes. Et ça, c'est l'amour, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur du Père. Et toutes les familles de la terre tirent leur nom du Père, de Dieu. Ça veut dire que la paternité de Dieu, elle est sur ta famille. Et encore une fois, je l'ai dit aussi tout à l'heure, tu n'es pas une génération oubliée, sacrifiée, perdue. Tu n'es pas quelqu'un qui est oublié, tu es quelqu'un qui est appelé. Dieu a pensé à toi, il a pensé à toi dès le commencement. Il a pensé à ta famille dès le commencement. Alors voilà, on va simplement prier. Prends quelques instants peut-être dans le silence où chacun peut dire son cœur et puis après je vais simplement prier. Jésus. Oui Seigneur, je te remercie pour ta présence. Pour ta présence de Père. Merci parce que tu te révèles comme un Père à chacun d'entre nous. C'est vrai, on s'attend à toi. On s'attend à toi encore ce matin. Seigneur, je te présente chacun de mes frères et sœurs qui se sont levés ce matin. Toi, tu sais de manière précise ce pourquoi ils se sont levés. Seigneur, je prie que cette interpellation qu'ils ont reçue et ce pourquoi ils se sont levés, eh bien que ça soit quelque chose qui simplifie encore en eux jusqu'à ce qu'ils passent à l'action par rapport à cette décision qu'ils prennent ce matin. Et Seigneur, je prie maintenant que ton esprit puisse descendre et guérir les cœurs, toucher les cœurs en profondeur, qu'il y ait, oui, cette œuvre de réconciliation qui s'opère maintenant, qu'il y ait cette œuvre de guérison qui se fasse dans les cœurs, Seigneur. Comme tu dis, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est vrai, c'est ce que nous voulons faire ensemble, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire ensemble, Père, te donner nos cœurs, te donner nos cœurs, pour que tu puisses toucher, agir en profondeur. Merci Jésus pour cette œuvre que tu opères, pour cette œuvre que tu inities. Et Seigneur, je prie pour cette église, que ce soit une église où la transmission devienne facile, devienne beaucoup plus facile, que chacun soit réceptif, que ce soit pour transmettre, que ce soit pour recevoir. Je prie qu'il y ait cet alignement sur la fréquence du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est déjà fait. Merci pour ce lieu qui est chargé d'histoire aussi. Merci pour tout ce que tu as déjà opéré. Et c'est vrai, tu agis encore aujourd'hui, tu vas agir encore. Et c'est vrai, alors qu'on s'attend à un réveil, alors qu'on s'attend à une action puissante de Dieu, je sais que c'est le cas ici aussi dans cette église. Eh bien, je te remercie parce que tu touches nos cœurs et tu ramènes nos cœurs là où ils doivent être, peut-être vers nos parents, peut-être vers nos enfants. Tu ramènes les cœurs, Seigneur, en te disant merci Jésus. Merci Jésus. Et peut-être simplement pour terminer, peut-être qu'en fonction de ce pourquoi tu t'es levé, eh bien, c'est aussi nécessaire que tu ailles voir telle ou telle personne pour demander pardon, pour dire voilà, j'ai pas eu une bonne attitude, j'ai eu une attitude qui permettait pas la transmission. Eh bien, si c'est le cas, que tu puisses aussi décider, c'est pas forcément quelque chose à faire maintenant, mais c'est pas exclu. Mais voilà, tu décides dans ton cœur, tu dis oui, je vais aller voir cette personne, peut-être de ma famille, cette personne de l'église, pour que on soit à nouveau sur la même fréquence, sur la bonne fréquence. Merci Jésus. Merci Jésus.